Mesdames, Messieurs, chers collègues, je suis très honoré et très ému d'accueillir aujourd'hui pour nos conclusions Jean Delumont, qui est l'un des maîtres les plus profonds et les plus ouverts de l'histoire, non seulement française mais européenne, l'un des maîtres qui m'a formé et dont je ne cesse de me nourrir. Je rappelle encore une discussion passionnante à Turin autour de son livre « Guetter l'aurore » et une personnalité qui a marqué l'histoire de cette maison et je dirais aussi les buts que tout enseignement doit se donner. Sa bibliographie est imposante et nous voyons à l'instant que la page entière de titre bibliographique qui lui est consacrée dans ce livre à la recherche du paradis qui est à la base de cette discussion et dont la traduction italienne « Alla ricerca del paradiso » vient de paraître. Eh bien, ce travail non seulement justifie pleinement que les conclusions soient données par Jean Delumont et pas par moi, il a l'autorité autour du paradis qui vient de très longues recherches et d'abord les trois volumes qu'il a consacrés à l'histoire du paradis. Mais d'autre part, il y a, et c'est là que j'ai commencé mes études, il y a tout un travail que Jean Delumont a fait autour de la civilisation et de l'histoire italienne. D'abord, le grand livre qui a été consacré à l'Italie de Botticelli à Bonaparte et maintenant l'Italie de la Renaissance aux Lumières. Et puis Rome au XVIe siècle, l'un des grands classiques. Mais ce volume, Rome au XVIe siècle, est entouré par une constellation de livres consacrés à la Renaissance, la civilisation de la Renaissance, naissance et affirmation de la Réforme, vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du XVIe siècle. Et puis, l'un des grands classiques de l'histoire des mentalités dans la deuxième partie du XXe siècle, c'est-à-dire la peur en Occident, 14e, 18e siècle. C'est un moment, 78, où on n'avait pas encore toute la peur que nous avons maintenant. Et ce livre a été prophétique, a été non seulement très fondé au point de vue historique, mais prophétique. Nous sommes désormais des sociétés de peur. Il suffirait de, je le dis assez souvent, d'analyser la vie de la Méditerranée comme on la trouve, on peut la lire dans les récits des ambassadeurs vénitiens au XVIe siècle et comme nous la vivons aujourd'hui. C'est une régression assez importante. Mais avec ce livre sur la peur, il faut avoir, il y a toujours un pendant, il y a toujours un élan dans la recherche de Jean Delumont, rassurer et protéger le sentiment de sécurité dans l'Occident d'autrefois, il a bien dit dans l'Occident d'autrefois, 10 ans après, donc 1989. Et comme je vous ai dit, tous les volumes qui ont été consacrés à l'histoire du paradis. Mais avec encore l'analyse sur le présent, que reste-t-il du paradis? Donc il y a au moins 6 volumes qui sont consacrés à l'histoire du paradis. Mais il y a aussi un autre élément que j'aime souligner. Nous venons d'une tradition qui a marqué, en tout cas, les lettres, disons, de Dante à Mario Luzi, ou si vous voulez, je ne sais pas, prenons un grand texte anglais, de le nuage d'inconnaissance jusqu'à T.S. Eliot, c'est-à-dire la tradition biblique et chrétienne. Eh bien, c'est là que nous trouvons des essais très engagés de Jean Delumont qui sont vraiment aujourd'hui des points de repère. J'ai évoqué guetter l'aurore, mais il y a des livres qui le précèdent d'une très grande importance. Par exemple, « Le christianisme va-t-il mourir ?» Hachette, 1977, ou encore la, l'attention à l'histoire de tout ce qui lie la peur à ses présupposés. Par exemple, il y a un livre important, Le péché et la peur, la culpabilisation en Occident, et encore l'aveu et le pardon, les difficultés de la confession, 13e, 18e siècle, et encore la première communion, 4 siècles d'histoire. Donc vous voyez qu'en même temps, il y a le grand historien des faits sociaux, des faits politiques, des faits religieux, des faits spirituels, mais aussi quelqu'un qui est très attentif au quotidien d'un vécu dans l'histoire, bien évidemment. Et j'évoquais à l'instant Guetter l'aurore, c'est l'un des livres que je conseillerais toujours par l'élan, l'esprit, je dirais, ouvert vers l'avenir, qui est toujours dans la leçon de Jean de Lumont. Et donc, cette conclusion à la recherche du paradis, je la vois d'ores et déjà ouverte vers l'avenir, comme la méthode de Jean de Lumont nous propose toujours, plutôt qu'une clôture sur quelque chose qui serait définitivement oublié. Je vous remercie infiniment, cher maître.
Merci. Eh bien, chers amis, je remercie d'abord mon ami Carlos Solà de m'avoir invité aujourd'hui parmi vous. Ça me donne l'occasion de retrouver un petit peu mon public que j'ai quitté il y a maintenant 16 ans. Hein. Mais je me sens toujours de la maison quand même. La preuve, c'est que je suis là avec vous aujourd'hui. Alors, je vous indique comment je vais procéder. C'est-à-dire qu'il y aura des projections, mais nous commencerons sans projection et donc avec la lumière. Puis, nous enchaînerons une seconde partie avec des projections en continu, de façon à ne pas toujours avoir à allumer et à éteindre dans la salle. Et enfin, nous terminerons sans projection. Voilà, mais j'indiquerai de toute façon le passage d'une partie à l'autre. Alors, je vais rebondir sur ce que vient de dire notre ami Carlos Solà en parlant d'objets historiques. L'expression n'est pas de moi, mais à un certain moment de ma carrière, je me suis demandé comment est-ce que je vais m'orienter, et je me suis aperçu en feuilletant, si vous voulez, des revues, des bibliographies, que des objets historiques jusqu'à présent peu visités par les chercheurs attendaient qu'on se penche sur eux et qu'on les éclaire dans la continuité des uns des autres. Et donc, c'est ce que j'ai tenté de faire dans la longue enquête qu'a rapidement rappelé notre ami tout à l'heure. Mais je précise que quand je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'histoire de la peur, je me suis décidé à me lancer dans l'aventure, sans modèle, je dois dire, mais en même temps, j'avais pris pour moi la résolution que je n'en resterais pas à la peur. Mais pour ça, il fallait que Dieu me prête vie. Et il m'a prêté vie. Alors, donc, tous ces livres, et je le répète après lui, tous ces livres se sont enchaînés les uns les autres dans un ordre chronologique, mais qui est aussi un ordre idéologique et aussi, je dirais même, un ordre sentimental. Donc, La peur en Occident, 1978. Le péché et la peur, qui est le plus gros de mes livres, qui a été pour moi le plus difficile à écrire, 1983. Puis, de là, je passais logiquement à un second objectif, à une seconde étude, à savoir le sentiment de sécurité. Pour lutter contre l'excès de peur ou l'excès de culpabilité, se rassurer donc. Le second livre, ça a été le Rassurer et protéger 1989 et, dans la logique, l'aveu et le pardon l'année suivante. Et puis, le troisième volet, je l'ai intitulé « L'histoire du paradis ». Alors d'abord avec le Jardin des Délices, tous ces livres ont en grande partie été faits en cours ici. Hein. Certains peut-être s'en souviennent. Donc, le Jardin des Délices, 1992, Mille ans de bonheur, 1995, que je vis en grande partie encore ici en cours, et puis Que reste-t-il du paradis en 2000. Je précise que l'éditeur, Fayard en l'occurrence, m'a demandé si, pour ce qui était de l'histoire du paradis, je pouvais les rassembler en une sorte de synthèse, et c'est le livre paru en 2010, À la recherche du paradis. Alors, donc, dans cette dernière série, L'histoire du paradis, j'ai successivement étudié la durable nostalgie du paradis terrestre. Puis, ce que j'ai intitulé « Mille ans de bonheur », la tentation ou la volonté de faire réapparaître dans l'avenir le paradis terrestre. Et enfin, troisième partie, l'espérance d'un bonheur éternel au-delà de la mort. Alors, on me dit quelquefois, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas cherché dans les autres religions aussi? Je dirais tout bonnement, faute de compétences. Mais aussi, j'avais déjà suffisamment à faire pour ne pas me lancer dans une entreprise démesurée. Il faut quand même savoir limiter son temps et son espace. Donc, tous ces travaux se sont limités au monde chrétien et il s'est agi, alors là je parle à nouveau en historien, il s'est agi sur des thèmes précis, peur, besoin de sécurité, aspiration au bonheur, d'une histoire des croyances et des représentations collectives. Et plus particulièrement ici, d'une histoire culturelle du paradis. Et par conséquent, je pourrais dire, il est vrai que les gens savent quelle est ma carte d'identité, mais un historien non-croyant aurait pu suivre exactement le même plan que celui que j'ai suivi, et j'arrivais aux mêmes conclusions. Il s'agit d'objets historiques qu'il fallait éclairer. Alors, au sujet du paradis chrétien, je suis allé à l'encontre d'une idée reçue, car on assure assez souvent, si vous voulez, quand on parle comme ça du paradis, on assure d'ordinaire que la littérature et l'iconographie chrétienne ont mieux réussi à évoquer l'enfer et le purgatoire que le paradis. En quelque sorte, le pittoresque et le piquant auraient été du côté des descriptions infernales ou descriptions du purgatoire, la mièvrerie, la monotonie, l'ennui du côté de l'imagerie céleste. Alors, il est bien vrai, il y a un fond de vérité en ce sens que les prédicateurs ont plutôt évité les descriptions trop concrètes et trop humaine du paradis, alors qu'ils ont abondamment décrit tous les supplices infligés aux damnés. Et l'iconographie du jugement dernier a plus retenu l'attention par les scènes diaboliques, par les marmites de l'enfer, que par les paisibles processions des élus accueillis par les anges. Mais, et ça vous l'avez, je crois, vu toute l'année avec notre ami Ossola, le paradis de Dante, et d'ailleurs je vais un petit peu revenir sur ses pas, le paradis de Dante témoigne d'inventions aussi étonnantes dans leur registre que les trouvailles, d'accord, hautes en couleur qui ont fait le succès de l'enfer et du purgatoire. Mais surtout, et là c'est un problème de méthode, il importe pour mesurer la richesse des évocations paradisiaques, écrits, images et musique, qui pendant longtemps ont accompagné l'histoire chrétienne, il s'agit de prendre en compte une large documentation. Et ce choix de méthode m'a conduit à la révision du jugement historique que je lançais tout à l'heure, la mièvrerie du paradis chrétien. Et donc, quand on se met au travail, on se dit qu'on a un grand chantier devant soi, on n'est pas sûr de le terminer. Car l'historien du paradis chrétien en l'occurrence, doit constituer un large corpus d'hymnes liturgiques, de visions narratives, de textes mystiques se rapportant au paradis. Il doit aussi regrouper sous un même regard différents thèmes qui, d'une manière ou de l'autre, concernent le paradis. Non seulement le jugement dernier, bien sûr, mais aussi la Jérusalem d'en haut, le jardin éternel, la cour céleste, les anges musiciens, l'assomption de Marie, c'est-à-dire son transport au ciel, qui a été le thème de prédilection, quantitativement au moins, le thème de prédilection de l'art baroque. Et donc, et aussi, l'entrée des saints dans la gloire éternelle, n'est-ce pas ? Tout ça, ça fait partie de l'histoire du paradis chrétien. S'ajoute la conception même de l'Église, conçue par son architecture, par ses verrières ou sa décoration, éblouissante au XVIIe, XVIIIe siècle, comme une figure du paradis. Mais cela était déjà vrai au Moyen-Âge de la Sainte-Chapelle de Paris. La Sainte-Chapelle de Paris, par ses verrières, a voulu être consciemment une image du paradis. Et voyez que le rassemblement des thèmes paradisiaques à l'intérieur du christianisme devient une entreprise de grande ampleur et de longue haleine. Alors, quels furent les textes fondateurs du paradis chrétien ? D'abord, l'évocation du jardin d'Éden dans la Genèse. Il y est dit que Dieu, je cite, « fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et portant des fruits bons à manger. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin, et de là, il se partageait en quatre bras. Le Seigneur prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. » Vous savez sans doute, mais il faut quand même le répéter ici, que le mot « paradis » vient de l'ancien persan par l'intermédiaire du grec et signifie « jardin », et plus précisément « un jardin clos par des murailles, le protégeant contre les vents brûlants et desséchants du désert. » Mais l'évocation du paradis terrestre dans la Genèse est très sobre, mais elle a été enrichie progressivement, d'abord par la littérature hébraïque, et je pense en particulier à des textes d'Ésaïe, puis par des adjonctions empruntées à des auteurs profanes, païens, grecs et latins. Et en effet, les auteurs païens, grecs et latins, avaient décrit des jardins paradisiaques en évoquant l'âge d'or, les Champs-Élysées et les îles Fortunées. Or, à partir du second siècle de notre ère, se répandit chez les premiers écrivains chrétiens la conviction que ce que les païens avaient écrit de ces lieux enchanteurs dérivait mystérieusement du paradis terrestre de la Genèse, dont ils avaient eu connaissance par des canaux qui nous échappent. Or, ce qui est moins connu, c'est que cette opinion était encore couramment acceptée au XVIIe siècle par les spécialistes du paradis. D'où la contamination qui a conduit à embellir le paradis d'Adam et Ève de toutes les beautés de l'âge d'or, des Champs-Élysées et des îles Fortunées. Mais le mot « paradis », qui jusqu'au VIe siècle au moins ne désignait dans les textes que le jardin d'Éden, en vint de plus en plus à signifier le lieu du bonheur éternel. Par exemple, les pères de l'Église, quand ils parlent du paradis, ils veulent dire jardin des délices, le jardin des paradis terrestres. Mais donc, progressivement, le paradis, le mot, et aussi d'ailleurs les images qu'il comporte, de plus en plus sont montés dans un lieu du bonheur éternel. Et ainsi, on peut dire que montant de la terre au ciel, ce jardin emmena avec lui, au-delà, dans l'au-delà, toutes ses beautés horticoles. Mais il faut dire qu'on a imaginé l'éternité dans un jardin avant de l'appeler paradis. Et ici, un correctif, parce qu'il faut encore le faire même à notre époque, dans des homélies, on vous rappelle la phrase de Jésus au bon larron, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » Eh bien, ça n'a pas le sens qu'on lui donne. Et le père Danielou, devenu cardinal, qui était exégète, avait montré que le sens de cette phrase, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le lieu où les justes attendent la résurrection. » Ce n'est pas ce qu'on nous enseigne encore actuellement à ce sujet. L'Apocalypse, attribué à saint Jean et rédigé vers 90 de notre ère, a constitué avec ces images flamboyantes, qu'on peut dire qui déferlent comme une avalanche, un autre réservoir de thèmes paradisiaques. Ça peut surprendre, parce que le mot apocalypse, d'habitude, n'a pas ce sens-là dans le langage courant. Mais si on lit d'un bout à l'autre l'Apocalypse, on découvre successivement les sept candélabres d'or, et au milieu, un fils d'homme avec une ceinture d'or et des cheveux comme une laine blanche. Quelqu'un, entre guillemets, siégeant sur son trône devant un arc-en-ciel et entouré des 24 anciens et des 4 vivants. Chacun, d'ailleurs, tenant une harpe et une coupe d'or remplie de parfums. Puis la mer de cristal devant le trône, entre guillemets, des myriades et des myriades d'anges. Et puis la multitude des élus portant des robes blanches et des palmes. Et encore, l'agneau, debout sur la colline de Sion, tandis que retentit un cantique nouveau. Et enfin, la cité sainte, la Jérusalem descendue du ciel qui brille et dont les remparts ont des assises de pierres précieuses. Et encore, le fleuve de vie étincelant comme du cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Et enfin, à nouveau, le trône de Dieu et de l'agneau, mais cette fois, dressé dans la ville sur laquelle la nuit n'étendra plus ses ténèbres et d'où seront absentes la souffrance, les larmes et la mort. Alors, voilà, je dirais, une lecture un peu inhabituelle de l'Apocalypse, parce que l'adjectif apocalyptique a pris un sens dramatique en renvoyant aux multiples catastrophes qui, il est vrai, selon l'Apocalypse, devraient s'abattre sur le monde pécheur avant la descente de la cité céleste. Mais on oublie trop que le livre des Révélations, puisque c'est le sens du mot Apocalypse, attribué à saint Jean, est fondamentalement un message d'espérance. Il prophétise qu'après les victoires provisoires du mal, le bien et le bonheur s'épanouiront définitivement dans la Jérusalem céleste. Enfin, et ça je crois qu'on l'oublie souvent, un troisième texte essentiel pour la compréhension du paradis chrétien est la hiérarchie céleste. C'est le titre d'un ouvrage mentionné pour la première fois à Constantinople en 532. À l'époque, on l'attribua à Denis l'Aréopagite, personnage que l'on trouve dans les épîtres de saint Paul, et converti par saint Paul justement à Athènes, et qui ensuite serait devenu le premier évêque de cette ville. En réalité, celui que, depuis le XVIIe siècle, on appelle le pseudo-Denis, semble avoir été un Syrien écrivant en grec à la fin du Ve siècle ou au début du VIe. C'était vraisemblablement un néo-platonicien converti au christianisme. Donc, systématisant l'organisation globale du paradis, le pseudo-Denis divisa la cour céleste en 9 cœurs liés entre eux comme les anneaux d'une chaîne et répartit ces 9 cœurs entre 3 hiérarchies superposées. Le premier cœur, dans le voisinage immédiat de Dieu, et le dernier à proximité des hommes. Le pseudo-Denis écrivait « La pureté, l'illumination et la perfection émanée de Dieu, langage, je répète, néo-platonicien, se communiquent de l'ordre supérieur jusqu'au dernier des ordres inférieurs et de ceux-ci aux hommes. Au sommet des cieux sont, je le dis, les séraphins. Les anges, au contraire, sont en contact avec les hommes. » Or, et ça, on l'a oublié en Occident au moins, mais le pseudo-Denis devint rapidement une autorité incontestée dans tout le christianisme, dont on a pu comparer l'importance historique à celle de saint Augustin et de saint Thomas d'Aquin. Et donc, sa hiérarchie angélique fut acceptée aussi bien par les auteurs des grandes sommes théologique médiévale, j'y mettrai Dante si vous voulez bien en plus, que par un franciscain, un théologien jésuite du XVIIe siècle, Francisco Suarez, qui a été surnommé dès son époque le Thomas d'Aquin des jésuites. Alors maintenant, donc, nous allons passer à la partie avec images. Et Alors, si vous voulez faire l'obscurité dans la salle, et moi, pour faire la lumière sur mon écran, qu'est-ce que je fais? Ah, voilà, j'y suis. Bon. Alors, nous allons rester plus ou moins longtemps sur chaque image. Alors, ici, je précise qu'elle est prise dans un livre anglais, une histoire exactement germano-anglais, consacrée à l'histoire du paradis. Donc, Dieu est la Jérusalem céleste. Selon la cosmographie acceptée jusqu'à Galilée, avaient leur place dans un lieu. Permettez-moi d'insister sur le mot « lieu », sur lequel je reviendrai à nouveau à la fin de mon exposé. Donc, selon la cosmographie acceptée jusqu'à Galilée, Dieu et la Jérusalem céleste avaient leur place dans un lieu situé dans les hauteurs des cieux. Et selon cette cosmographie qui était héritée d'Aristote et du mathématicien grec Ptolémée, qui vivait à Alexandrie au second siècle de notre ère, la Terre, sphérique et immobile, est située, je pense que vous le voyez, en bas plutôt, la Terre, sphérique et immobile, est située au centre de l'univers. Et autour d'elle tournent sans cesse des sphères cristallines, emboîtées les unes dans les autres à la manière des poupées russes, et qui entraînent dans leur mouvement les planètes et les étoiles. Alors, si vous voulez vous monter de la Terre vers le sommet des cieux, donc de l'intérieur vers l'extérieur, vous avez les sphères successives de la Lune, de Mercure, de Vénus, du Soleil, de Mars, de Jupiter et de Saturne, qui tournent d'autant plus vite autour de la Terre qu'elles en sont plus éloignées. Au-dessus des sept sphères des planètes se trouve, tournant en 24 heures, la sphère dite des étoiles fixes. On les appelait comme ça parce que contrairement aux planètes, elles paraissent ne pas bouger, parce qu'elles reviennent tous les soirs à la même position. Et au système de Ptolémée, l'Antiquité tardive et le Moyen-Âge chrétien ajoutèrent deux autres sphères. Alors, vous les voyez, donc, vous arrivez à suivre sur l'écran? Bon. Alors, au système de Ptolémée, l'Antiquité tardive et le Moyen-Âge ajustèrent deux autres sphères, celle du premier mobile et enfin celle de l'empiré. Alors, la sphère du premier mobile, dans les textes et dans les images d'autrefois, est aussi appelée ciel cristallin. Et il était censé entourer et mettre en mouvement les huit sphères inférieures. La rotation de chacune d'elles, entre parenthèses, je vais le redire, facilitée par l'impulsion des anges, eh bien, provoquait la rotation de la sphère située juste à l'intérieur. Quant à l'empiré, d'un mot grec, mais relativement peu employé dans le grec classique, d'un mot grec signifiant feu et lumière, jadis tenu pour l'habitat des dieux, il devint, dans la cosmographie aristotélicienne, christianisée, il devint la demeure, entre guillemets, demeure immobile de Dieu, des anges et des élus. L'empiré coiffait toutes les autres sphères. Alors, ici, je reviens sans doute à ce que vous avez vu avec Carlo Ossola. De façon éblouissante, Dante a construit son paradis en associant la hiérarchie angélique du pseudo-Denis avec la cosmographie christianisée de Ptolémée. Et Dante l'a fait en disant qu'il le faisait, n'est-ce pas? Mais c'est une trouvaille géniale de sa part. Et donc, une de ses inventions a consisté à combiner une ascension graduée de ciel en ciel avec un plan horizontal. Voyez-vous, alors, à l'étage supérieur, si vous voulez, un plan horizontal représentant, figurant la totalité de l'univers. Donc, Dante et ses guides, Béatrice puis Saint-Bernard, montent vers l'Empyrée depuis la Terre en traversant les sphères successives des planètes, des étoiles fixes et du premier mobile. Chaque sphère est le domaine d'une catégorie d'esprits célestes. Les anges, à proximité des hommes, sont affectés à la Lune et les séraphins au premier mobile. De même, aux différentes catégories d'élus et en fonction de leurs mérites sont assignées des sphères de dignité croissante. Ainsi, la sphère de la Lune est affectée à ceux qui furent empêchés d'observer leurs vœux religieux. Donc, ils avaient une vocation religieuse, mais la famille, le contexte, non, les ont empêchés. Donc, ils n'ont pas été religieux ou religieuses, hein, et ils sont quand même au paradis, rassurez-vous, mais à proximité de la Terre. Bon. Et puis, alors, on monte. Alors, la sphère des étoiles fixes est le domaine particulier de Marie, Saint-Pierre, Saint-Jean et Saint-Jacques, réunis autour du Christ triomphant. Et donc, Dante a voulu signifier, avec le pseudo Denis, mais aussi avec toute la théologie traditionnelle, que les élus et les esprits célestes n'ont pas tous la même capacité de béatitude, mais rassurez-vous, tous sont heureux, si vous voulez, en fonction et en mesure de leur capacité. Voilà. Alors, je vous dirai aussi cette chose, qu'à propos de ces différentes catégories d'élus et de ces différentes sphères affectées aux élus et aux anges, eh bien, quand j'étais enfant, au catéchisme, on apprenait encore cela. Et alors, les élus et les esprits célestes sont donc à la fois dans les différentes sphères et dans l'empyrée, qui, vous le voyez sur le graphique, est non seulement une sphère coiffant toutes les autres, mais aussi, sur un plan horizontal, une rose mystique semblable à un amphithéâtre qui ferait cercle autour de Dieu. Les saints et les esprits célestes sont les pétales de cette rose. Alors, j'espère que je vais réussir dans mon entreprise. On ne voit pas grand-chose, là. Voilà. Bon, je me trompais de touche. Bon. La cosmographie de Ptolémée christianisé s'est maintenue très longtemps, au-delà de Galilée encore. Donc voici, vous avez sous les yeux une enluminure qui date de 1276, qui illustre un livre composé 100 ans plus tôt, le De Philosophia Mundi de Guillaume de Chartres. Alors vous y repérez, je pense, les 9 sphères entourant la Terre, couronnées par l'Empyrée, alors, où apparaissent, alors c'est le sommet de l'image, où apparaissent Dieu, Marie et les anges. Bon, Dieu et Marie sont un petit peu coupés, hein, je m'excuse. Bon, beaucoup plus tard, en 1568, alors, c'est-à-dire que ma lumière... Non. Voilà, non. Alors, bon, je m'excuse de cet attonnement, je ne suis pas familier avec cet appareil que j'ai découvert ce matin. Bon. Donc, vous avez sous les yeux une image, une carte, qui date de 1568 et qui a été réalisée par un cartographe portugais, Bartolomeu Velho, pour notre roi de France, Charles IX. C'est une intéressante figure des corps célestes. Figure des corps célestes, c'est le titre. Alors, vous voyez ici que les contours de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique sont dessinés pour la date 1568 avec une relative précision. On les reconnaît. Bien, il est évident que l'auteur était au courant des voyages de découverte. Mais au-delà de la Terre, alors, vous voyez donc, bon, encore une fois, l'Afrique, là, et l'Asie, mais on retombe sur le système de Ptolémée complété par les spécialistes médiévaux du paradis. Et le ciel du premier mobile, voyez-vous, on le voit, et il est entouré par celui de l'Empyrée, avec en lettres d'or sur fond rouge, habitation de Dieu et des élus, que des anges entourent de leurs ailes. Donc, même à l'époque des voyages de découverte, eh bien, là, on pouvait très bien insérer en quelque sorte les pays qu'on connaissait mieux à l'intérieur de la cartographie traditionnelle et du système d'Aristote. Alors, j'introduis ici une parenthèse amusante. Voilà. J'introduis une parenthèse amusante. Dans le système de Ptolémée, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier mobile qui impulse le mouvement du ciel, des étoiles fixes, et ensuite des autres sphères. Et les mobiles, si vous voulez, les sphères se communiquent les unes aux autres, le mouvement général. Toutefois, par précaution, on pensait, les théologiens pensaient, et les cartographes aussi par conséquent, que les anges assuraient la continuité du mouvement en donnant, si vous voulez, en quelque sorte des chiquenaudes régulières. Or, c'est ce que l'artiste ici a représenté en montrant des anges qui font tourner les sphères avec des manivelles. C'est ça que vous voyez, elles sont très visibles. Bon. Alors, cette image est prise dans un traité de Dieu et de la création, inséré dans un bréviaire d'amour. En réalité, c'est une encyclopédie composée par un franciscain de Béziers au XIVe siècle. Et donc, c'est lui qui a imaginé ça, peut-être, les anges qui actionnent le mouvement des sphères avec des manivelles. C'est donc dans l'Empyrée, conçu comme un lieu, que le christianisme a longtemps situé la Jérusalem céleste. Alors, je laisse cette image un petit moment pour l'écran, hein, c'est parce qu'il s'agit bien, hein, quand même, de la Jérusalem céleste. Donc, c'est dans l'Empyrée, conçu comme un lieu, que le christianisme a longtemps situé la Jérusalem céleste, et les textes et les images, au cours des siècles, se sont plus dans le sillage de l'Apocalypse, a évoqué la ville du bonheur éternel. Voici un très beau texte du XIe siècle du bénédictin Jean de Fécamp qui proclame « Sainte Sion, Jérusalem, ma mère, heureuse es-tu, infiniment heureuse et heureuse à jamais. Que tu es belle et gracieuse, que tu es glorieuse et bienheureuse, tu es toute belle, en toi nulle souillure. Cité choisie de Dieu, bâtie par la main du Créateur éternel, qui peut évaluer le prix? Qui peut dire la beauté des ornements de ton édifice admirable? On y a enchâssé toutes les pierres précieuses, taillées, polies et soigneusement ajustées. Aussi n'est-il plus question d'entendre chez toi le bruit du marteau. Tes murs sont formés d'une variété multiple de joyaux étincelants. Tes portes sont serties de perles fines. Tes places sont de l'or le plus pur. Tes demeures nombreuses reposent sur des saphirs et sont couvertes de tuiles d'or. Nul impur n'y entre, nul adonné au vice n'y peut habiter, car chez toi ne se rencontre ni le méchant ni la méchanceté. » Et pour illustrer dans le temps et dans l'espace, et j'ai dû faire un choix, bien entendu, dans les images, pour illustrer dans le temps et l'espace, le thème de la Jérusalem céleste, voici d'abord la reproduction des mosaïques de l'église romaine de Sainte-Pudentienne, qui se trouve près de Sainte-Marie-Majeure. Ces mosaïques sont de la fin du IVe siècle ou du début du Ve. Jésus y est figuré en Christ roi, sur un trône dans le style de l'iconographie impériale du temps, et les apôtres forme cercle autour de lui. Alors simplement, ici, on ne voit que Pierre et Paul, mais on devine les demi-cercles remplis par les autres apôtres qui sont couronnés par deux anges. Vous voyez à droite et à gauche, au-dessus des deux têtes de Saint-Pierre et de Saint-Paul, vous voyez des mains, hein, des mains angéliques qui couronnent de laurier Saint-Pierre et Saint-Paul. La scène est fermée par un portique courbe derrière lequel vous apercevez les édifices d'une ville dont une rotonde, une construction octogonale, des bâtiments carrés ou rectangulaires. Alors, voulait-il évoquer, en les idéalisant, je ne sais pas, des édifices religieux de la Jérusalem du temps, qui était chrétienne? Peu importe, en tout cas, visiblement, c'est l'Apocalypse de Saint Jean qui a inspiré cette mosaïque. Les bâtiments sont de marbre avec des toitures dorées. Et alors, derrière le Rédempteur, là, l'image malheureusement est coupée, mais au-dessus de la tête du Seigneur, vous voyez une colline, et au sommet de la colline, un piédestal, c'est une croix qui termine l'image en hauteur. Presque contemporaine, je dirais aussi voisine d'ailleurs dans l'espace, presque contemporaine de Sainte-Pudentienne, la basilique romaine de Sainte-Marie-Majeure, qui a été bien des fois remaniée au cours des siècles, mais qui a conservé cette représentation de la cité céleste inspirée par l'Apocalypse. Alors, vous voyez à droite, allant vers la droite, un arc qui commence, un arc triomphal, et sur l'arc triomphal, il y a inscrit Jérusalem. Par conséquent, il n'y a aucun doute sur l'identification du monument ou des monuments qui sont devant vous. Les hautes murailles, les tours d'or et de pierres précieuses entourent, vous voyez, des bâtiments serrés les uns contre les autres, et à la porte, six brebis qui vont entrer symbolisent les apôtres. La ville céleste devait ensuite faire une belle carrière en Occident, une belle carrière iconographique notamment. Et on le voit par exemple dans cette évangéliaire de Saint-Médard de Soissons, qui en réalité n'est pas originaire de Soissons, c'est une enluminure rhénane de la première moitié du IXe siècle. Et il s'agit, là encore, influence de l'Apocalypse, de l'adoration de l'agneau par les 24 vieillards, et les tentures repliées laissent découvrir un vaste fragment de paysage, de décor urbain. Sans doute savez-vous, mais ce n'est pas inutile de le rappeler quand même, que la plus grande série de tapisseries réalisées au Moyen-Âge en Europe a été la célèbre Apocalypse d'Angers, que voici un extrait. Elle a été commandée, alors pourquoi Angers ? Elle a été commandée par le duc d'Angers en 1373 et réalisée à Paris. Et maintenant, elle est conservée au château d'Angers. Et dans cette série de tapisseries, la cité céleste, la Jérusalem, est plusieurs fois représentée, notamment dans ce panneau à fond bleu, sur lequel la Jérusalem définitive est figurée comme une ville du XIVe siècle avec ses portes, ses fortifications et ses églises. Et alors, regardez la partie gauche, du haut du ciel, Dieu la désigne à Saint-Jean qui se trouve ici à l'intérieur d'une sorte de guérite gothique. Dans l'ouvrage attribué à Saint-Jean, donc l'Apocalypse, je ne sais pas si vous vous souvenez que la ville d'en haut, la Jérusalem d'en haut, est décrite comme un carré, c'est-à-dire comme le carré étant, si vous voulez, l'image en quelque sorte d'une structure idéale. Eh bien, c'est ce qu'on peut voir. C'est ce qu'on peut voir dans l'image que vous avez sous les yeux, qui est la plus ancienne apocalypse flamande enluminée. Je ne dis pas la plus ancienne apocalypse flamande, mais la plus ancienne apocalypse flamande enluminée qui est conservée à la Bibliothèque nationale de Paris, et de France, enfin à Paris, et elle date d'environ 1400. Alors vous voyez que le quadrilatère, car il s'agit d'un quadrilatère, donc l'image est fidèle au texte, le quadrilatère comporte quatre tourelles d'angle et 12 portes. Et un ange est debout devant chacune de celles-ci, regardant vers l'intérieur où se tient l'agneau à côté de l'oriflamme de la croix. Alors en haut se détache sur le ciel bleu étoilé, se détache le Seigneur qui bénit d'une main et qui tient un globe de l'autre, ce qui est une figuration classique du Seigneur au Moyen-Âge. Et en bas, l'étage inférieur, vous avez trois rois et un empereur. L'empereur, c'est celui qui a... Il y a trois rois. Oui, l'empereur, c'est celui qui a sans doute le vêtement bleu. trois rois et un empereur qui apportent des calices, des ciboires et des reliquaires. Alors, de même que les mosaïstes de Sainte-Pudentienne avaient symbolisé la ville éternelle en s'inspirant des monuments impériaux de leur temps, de même, les artistes du XVe siècle transposèrent dans la Jérusalem paradisiaque les architectures du gothique tardif. Et c'est ce qu'on peut voir sur ce dernier des bois gravés par Dürer pour illustrer son apocalypse qui date de 1498 et qui, entre parenthèses, est l'œuvre qui l'a rendu d'emblée célèbre en Europe. Eh bien, vous devinez à droite en bas, vous devinez Satan, qu'un ange enferme dans un trou de l'enfer, et Satan ne sortira plus de sa prison infernale. Alors qu'au contraire, vous avez à l'étage au-dessus, toujours à droite, un ange, un autre ange, qui montre à Saint Jean, qui désigne au loin la ville du bonheur éternel, donc Jérusalem céleste. Alors, il n'est pas sûr du tout que cette ville, que vous voyez alors au centre et à gauche, il n'est pas sûr du tout que cette ville soit une reproduction exacte de Nuremberg, la ville dans laquelle habitait Dürer. Je dirais qu'il s'agit plutôt d'une ville recomposée de l'Allemagne de l'époque, avec ses tours fortifiées, ses clochers effilés et ses, un faubourg, vous voyez le faubourg, dont on devine à gauche en bas, un pont-levis ouvert, et puis c'est la porte d'entrée dans la ville, la porte d'entrée dans la ville qui se trouve au fond, et qui est la Jérusalem céleste, n'est-ce pas ? Ainsi, ceci pour dire que les artistes, au cours des âges, en illustrant l'Apocalypse, ont imaginé tout naturellement la cité céleste en utilisant ou en recomposant, c'était bien naturel, les éléments que leur proposait la silhouette des villes de leur temps. L'autre grand thème paradisiaque a été le jardin des délices transporté dans l'au-delà. Alors, voici, je me suis posé la question en cours de route. Ces questions vous mènent loin durant l'enquête. Où trouve-t-on le plus ancien texte chrétien où le séjour définitif des élus est évoqué sous les aspects d'un jardin éternel? Alors, je dirais que dans l'état actuel des connaissances, il s'agit d'un texte du milieu du IIIe siècle de notre ère, dû au cercle qui s'est réunissait donc en Afrique autour de Saint-Cyprien. Et dans ce texte, le lieu du Christ, il n'est pas appelé paradis, hein, le lieu du Christ est appelé lieu de grâce et décrit comme une terre luxuriante dont les champs verdoyants se couvrent de plantes nourricières et gardant intactes des fleurs parfumées. Là, les arbres montent haut vers le ciel, donnant une ombre dense comme un vêtement. Ni le froid de l'hiver, ni la chaleur brûlante de l'été ne nuisent à la végétation. Alors, plus tard, un poète chrétien, l'Espagnol Prudence, qui est mort pour fixer les idées en 415, peignant l'arrivée de l'âme bienheureuse dans le bonheur du paradis, la voit étendue sur un lit de pourpre, aspirant les senteurs éternelles, et sur sa couche de rose, buvant la rosée d'ambroisie. Alors, vous aurez sans doute reconnu, surtout beaucoup d'entre vous connaissent l'Italie certainement, une des plus célèbres prairies paradisiaques de l'art chrétien, c'est celle de l'église Saint-Apollinare in Classe de Ravenne. In Classe, ça voulait dire à l'époque au bord de la mer. Maintenant, c'est à 6 km de la mer. Bon. C'est une mosaïque du VIe siècle. Au sommet de l'abside, une immense croix ornée de pierres précieuses qui se détache sur un ciel étoilé et qui signifie la transfiguration du Christ entre Moïse et Élie. En dessous, le premier évêque de Ravenne, Apollinaire, qui est représenté en orant parmi les élus symbolisés par des brebis. Et vous voyez que, vous ne voyez peut-être pas très bien, il faudrait un peu une loupe, mais les brebis paissent une large et verte prairie parsemée d'arbres, de fleurs et d'oiseaux blancs. Les fleurs et les oiseaux sont blancs. C'est la campagne de l'éternel bonheur. Et cette mosaïque est évidemment, enfin, à mon avis, tout naturellement, à rapprocher de l'agneau mystique de Gand, réalisé par Jean et Hubert van Eyck, terminé en tout cas en 1532, qui pour moi est un des sommets de l'art chrétien. Mais là, vous aurez peut-être l'occasion d'aller à Gand un de ces jours, il faut surtout faire le détour. Hein. Et il faut quand même que je raconte une histoire récente, en ce sens que ce polyptyque a eu des malheurs divers. En 1566, au moment de ce qu'on a appelé dans les Flandres la furie iconoclaste, il a failli être détruit par des iconoclastes protestants. Puis, au XVIIIe siècle, l'empereur Joseph II, le frère de Marie-Antoinette, qui avait les Pays-Bas, ex-espagnols et maintenant autrichiens, dans son domaine, eh bien, Joseph II, qui était très prude, a trouvé que Adam et Ève, voyez au debout, étaient trop nus. Il les a fait enlever. Bon. Arrivent les troupes de la Révolution française, qui raflent le tout, qui l'emmènent au Louvre. Et puis, à la Restauration, la France rend le polyptyque à la Belgique. Mais au cours du 19e ou le début 20e, il a été soumis à plusieurs retouches, plusieurs réfections, plutôt maladroite, et puis en outre, l'extrême volé en bas à gauche a été volé. Non, il a été volé en 1937. On ne l'a pas retrouvé, donc c'est une copie. Bon. Et puis enfin, arrive la guerre de 39-45. Alors, le gouvernement belge, avant que l'invasion de la Belgique en 40, hein, mais en 39, le gouvernement belge, qui était neutre encore à l'époque, a demandé à la France si elle pouvait abriter l'agneau mystique. La France n'était pas encore envahie. Et la France a accepté. Et l'agneau mystique a été emballé et mis dans la région de Pau. Mais en novembre 1942, les Allemands envahissent la zone sud et ils font main basse sur l'agneau mystique. Et en 1945, par hasard, des soldats américains le retrouvent dans une mine de sel en Styrie. Quelle aventure! Alors, depuis, il a regagné la cathédrale de Gand, mais il n'est pas dans la chapelle primitive. Parce qu'on a voulu sécuriser. D'abord, il a été entièrement rénové, et rénové, et rénové avec toute la science actuelle. Et puis, en second lieu, on l'a mis très visible, mais protégé par une vitre épaisse, on l'a mis dans une chapelle où il est plus facile à conserver. Alors, ceci dit, vous voyez que, à vrai dire, de mon point de vue, j'ajoute que le titre Agneau mystique est un titre du XVIIe siècle. Ce n'est pas le titre, on ne sait pas quel était son titre initial. Pour moi, il s'agit d'une Toussaint. Donc, à l'étage supérieur, le Seigneur, en grand prêtre, et les commentateurs disent c'est à la fois le Père et le Fils, le Seigneur en grand prêtre, béni, entouré de Marie et d'un personnage avec un manteau vert, qui est Jean-Baptiste. Puis, de part et d'autre, des anges chanteurs et musiciens, et Adam et Ève. Et en dessous se déroule une liturgie céleste dans un jardin paradisiaque, derrière lequel vous apercevez, voyez, derrière les arbres, vous apercevez des constructions urbaines. Et nous savons qu'elle voulait représenter la Jérusalem céleste. Et donc, dans cette composition assez unique dans son genre, si vous voulez, en quelque sorte, le jardin paradisiaque est inclus à l'intérieur des murs de la Jérusalem céleste. Alors, se déroule donc une liturgie dans la prairie paradisiaque. Alors, des bosquets, vous voyez sortir des cortèges d'élus qui vont faire cercle autour de l'agneau et de la fontaine de vie, voyez, en bas, située en contrebas. L'une et l'autre entourées d'anges. Alors, les personnages à droite, plutôt, commençons par la gauche. En bas, vous avez les prophètes de l'Ancien Testament et, disons, les sages, même du monde païen. Et on pense assez souvent que le grand personnage en blanc à gauche et Virgile. Bon. Ensuite, alors, vous avez les en haut, les martyrs en haut à gauche et les vierges en haut à droite. Voilà. Et puis, donc, l'autel de l'agneau et les anges autour de l'agneau et de la fontaine de vie. Voilà. Alors, vous... Il faut que je revienne peut-être un peu en arrière. Oui, je vais en parler tout à l'heure, mais vous remarquez aussi que tous les arbres sont des arbres qui ne perdent pas leurs feuilles. On est au paradis, printemps éternel. Par conséquent, il n'est plus question ni d'automne ni d'hiver. D'autre part, je reviendrai tout de suite, mais vous notez les anges chanteurs et musiciens hein, qui vont occuper une place croissante dans l'art paradisiaque de la fin du XVe et du XVIe siècle. Je passe maintenant au fait, à mon avis important, que le jardin paradisiaque a servi de cadre, notamment au XVe et XVIe siècle, à des évocations de Marie avec son enfant sur ses genoux. Ah oui, j'avais oublié cette image qui est très belle. C'est la prairie paradisiaque. Vous voyez la finesse, la précision avec laquelle sont peints ici les lys, les iris et les pivoines. Bien, je pense. Alors ici, bon, une parenthèse pour vous dire qu'il s'agit aussi d'un jardin paradisiaque. Mais c'est l'entrée du paradis dans un petit tableau de Fra Angelico qui se trouve au musée Saint-Marc, le couvent Saint-Marc de Florence. Simplement, c'est un petit tableau. Il faut le chercher un petit peu. Mais les anges accueillent des élus et dansent avec eux une ronde avant d'entrer à gauche, là où se trouve la lumière, dans ce qui va être le paradis proprement dit, où va se dérouler le jugement dernier. Donc, c'est un fragment d'un jugement dernier. Mais, et je reviens un peu à ce que je disais au début, c'est cette partie-là qui est l'antichambre du paradis, l'antichambre verdoyante et fleurie. C'est ça qui a peut-être le plus retenu l'attention et, je dirais, la sympathie des visiteurs. Alors, donc, j'aborde maintenant, donc un petit peu de retard, le problème de la musique. De la musique et puis des personnages réunis autour de Marie avec son enfant sur ses genoux. Il ne s'agit plus d'une image de la terre. Il s'agit bel et bien d'une image déjà paradisiaque. Alors, devant vous, une œuvre de Memling, qui est mort en 1494, une œuvre qui se trouve au Louvre. Et les fleurs derrière Marie, le paysage très harmonieux, les jeunes saintes autour de la Vierge, les anges musiciens que vous voyez dans le ciel créent une atmosphère de bonheur bucolique éternel. Et il faut dire, ce qui, je crois, était un peu trop oublié auparavant dans les histoires dispersées du paradis, c'est que le culte marial a énormément contribué à l'enrichissement de l'iconographie paradisiaque. Alors, image suivante que voilà. Il s'agit de la Vierge à la treille de rose. C'est une peinture de Stefan Lochner, qui est un peintre allemand mort en 1451 et qui se trouve dans un musée de Cologne. Entourée d'anges et d'élus, bénis par Dieu le Père, Marie, couronnée et son enfant sont, pour un instant au moins, on sait bien que ça ne durera pas, il y aura la croix après, mais sont pour un instant au moins transportés dans un jardin céleste. Et significative est la présence autour d'eux de petits anges musiciens. Et pour moi, ils témoignent, et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure au début d'objets historiques replacés dans leur contexte du temps. Eh bien, ils témoignent pour moi de l'invasion de la musique à partir du milieu du XIVe siècle dans l'iconographie paradisiaque. Iconographie, donc, qui a une histoire. Et cette présence nouvelle doit être mise en rapport avec donc l'essor de la musique à la même période dans la civilisation occidentale. Et on la saisit peut-être encore mieux dans cette œuvre que j'aime beaucoup, qui est relativement peu connue. Elle se trouve à Bilbao, non pas au musée Guggenheim, mais au musée des Beaux-Arts, hein, quand elle n'est pas prêtée pour des expositions à l'étranger. La dernière fois que je suis allé à Bilbao, ben, je n'ai pas pu la voir parce qu'elle était aux États-Unis. Bon, mais finalement, cette image est peu connue. Ce tableau est peu connu et, à mon avis, il est de toute beauté. Et en plus, il est très rare. Je veux dire que, autour de Marie et de son enfant, les anges bleu pastel qui émergent d'une brume violette jouent, alors regardez les différents instruments, jouent de la harpe, de la vielle, du psalterion, le psalterion qui est en forme de trapèze en bas à gauche, de l'orgue positif, c'est-à-dire posé sur un petit meuble. Hein. Et cette peinture est exceptionnelle par ses couleurs. Par ses couleurs qui sont inhabituelles pour l'époque. Et puis aussi par la richesse de l'orchestre angélique qui se trouve rassemblé là. Alors le contraste, en outre, d'un point de vue, je dirais, technique, le contraste entre le rouge royal de la Vierge et puis le bleu violet alentour est une réussite extraordinaire. Alors, les commentateurs pensent qu'il s'agit d'une œuvre flamande et non pas espagnole. Mais à l'époque, les rapports commerciaux, mais économiques plus généralement, entre la Flandre et le Pays Basque étaient fréquentes et importantes à cause de la pêche, notamment à Terre-Neuve, voyez-vous. Et par conséquent, c'est à mettre en rapport avec l'essor économique des relations entre Bilbao, le Pays Basque en général, et la Flandre. Non. Alors, autre image d'ange musicien magnifique, peut-être avez-vous reconnu, c'est un des anges musiciens de Melozzo da Forli, qui se trouve maintenant au musée du Vatican. Mais il y a 6 anges au musée du Vatican, mais auparavant, cette fresque et une autre que je vais vous dire se trouvaient dans l'église des Saints Apôtres à Rome, à côté de la colonne Trajane. Puis cette église a été entièrement refaite au XVIIIe siècle et on a dispersé, hélas, l'œuvre de Melozzo da Forli. Alors, une partie se trouve toujours au musée, au palais du Quirinal, qui était le palais des papes d'autrefois. C'est dans un grand escalier. Et ça représente une ascension du Christ. Donc, les anges jouaient, les anges musiciens jouaient de leurs instruments pour célébrer l'ascension du Christ. Et le reste a été transporté au Vatican, au musée du Vatican. Donc, ce sont les très célèbres anges de Melozzo da Forli. Voilà. Je précise que Melozzo da Forli est mort, lui aussi, en 1494. Voilà. Eh bien, ces quelques œuvres que je vous ai montrées me paraissent des témoins de l'étroite imbrication à l'époque de la musique et des thèmes paradisiaques. Et j'ajouterai encore ceci, si vous avez l'occasion, alors au XVIe siècle, pour le XVIe siècle, d'aller à la cathédrale de Sens, vous verrez des verrières des environs de 1560 avec une soixantaine d'anges musiciens, sauf erreur, c'est dans le transept droit. Mais nous gardons pour l'instant cette image, si vous voulez, sur l'écran. Mais le réservoir des images paradisiaques qui étaient, me semble-t-il, particulièrement riches et colorées à l'aube du XVIe siècle a subi, dans la période suivante, un rétrécissement sensible. Encore une fois, il s'agit d'un exposé historique. La Jérusalem céleste va progressivement abandonner ses toits d'or et ses murailles de pierres précieuses. Les anges musiciens vont se faire plus rares. Les prés fleuris, les arbres de Ravenne et du polyptyque de Gand, presque partout vont s'évanouir. Les vêtements somptueux, on a parlé d'un vestiaire somptueux, les vêtements somptueux des habitants de la cour céleste vont laisser place à des drapés flottants. Donc, ces produits, il faut bien le dire, une certaine usure d'images, peut-être parce qu'elles avaient été trop souvent répétées. Et puis surtout, l'Église catholique, après le Concile de Trente, s'est défiée des évocations trop précises, peut-être aussi trop terrestres, du paradis, que le protestantisme, de son côté, rejeta complètement. Mais ce constat, une fois établi, alors je change d'image. Là, il est bloqué. Hein. Je m'excuse. Ben oui, ben.
Ah, vous l'avez bloqué.
Il est bloqué. Qu'est-ce que j'ai fait pour le bloquer?
Pierre, tu veux pas m'aider, Pierre?
Il est bloqué. Ah, voilà.
Là, la petite flèche est bloquée maintenant. Ah oui, il ne faut pas arrêter le diaporama, surtout.
Donc,
on
il faut
peut-être mettre suivant, alors, en haut. Avec la flèche, on peut peut-être mettre suivant. Tu vois, sur l'écran, voilà. Peut-être que là, c'est bon.
Voilà.
Merci.
Merci beaucoup. Bon, je m'excuse de mon inexpérience, là. Voilà. Bon. Mais, donc, une fois que nous avons établi ce constat de disparition, quasiment, de toutes ces magnifiques images, eh bien, il faut constater un renouvellement spectaculaire que la Renaissance et l'art baroque ont apporté dans l'évocation du ciel chrétien. Car la Renaissance et le baroque multiplièrent les coupoles à partir de celles construites par Brunelleschi de 1420 à 1436 pour la cathédrale de Florence et qui s'élèvent à 114 mètres de haut. Plus tard, à la fin du XVIe, la coupole de Saint-Pierre fera encore mieux, 143 mètres. Donc, je me suis peut-être trompé. La coupole de Florence, 114 mètres de haut. Et la coupole de Saint-Pierre, en 1593, terminée en 1593, 143 mètres de haut. Il faut voir que ce furent des prouesses techniques extraordinaires. Et Brunelleschi passa pour quelqu'un d'absolument unique en son temps, car la coupole que nous voyons sous les yeux, que nous avons sous les yeux, avait été construite sans échafaudage extérieur. Et les Florentins qui passaient devant disaient « Mais il est fou, ça va s'effondrer. » Mais ça ne s'est pas effondré. La trouvaille, entre autres, c'est qu'il y a deux coupoles emboîtées l'une dans l'autre, hein, et par conséquent, qui se soulagent mutuellement. Bien. Alors, les coupoles et les voûtes en plein cintre ont voulu être et furent comprises à cause de leur forme même comme des évocations du ciel paradisiaque. Alors, vous remarquez toutefois que la cathédrale de Florence est encore de dessin gothique, voyez les nervures. Hein. Mais la suivante, alors j'espère que je vais... Voilà. La suivante, c'est l'église de la Consolation de Todi, qui est du début du XVIe siècle. Alors là, est typique de ce qu'on a appelé l'architecture musicale chère à la Renaissance, donc les formes sphériques. Le parti pris de pureté, de sobriété, marque ici la volonté de concrétiser dans la pierre l'ordre du monde et de faire en sorte que l'Église soit comme le reflet de la divine harmonie. Alors, nous ne quittons pas les coupoles. À l'époque baroque, les coupoles se diversifient, se compliquent, cherchent à étonner, mais toujours, ce n'est pas de l'art pour l'art, hein, il ne faudrait pas se tromper. Toujours dans le but d'élever les yeux des fidèles vers la gloire de Dieu et vers le futur céleste. Vous avez évidemment reconnu l'église de la Salute à Venise. Salute, c'est-à-dire de la santé retrouvée, élevée par la municipalité de Venise après la peste, la fin de la peste de 1630, d'où son nom, l'église de la santé, et qui mettait en scène, sauf erreur pour la première fois et de façon tout à fait théâtrale, deux coupoles inégales. Puis, celle de Saint-Yves de la Sapienne, c'est-à-dire c'était la chapelle de l'Université de Rome. Chapelle construite par Borromini au milieu du XVIIe siècle et qui associe, vous le voyez très bien ici, des formes convexes et des formes concaves, présentant à l'extérieur un dôme aplati, surmonté d'un lanternon en spirale. C'est un des monuments incontestablement les plus séduisants de la Rome baroque. Alors moi, j'évoque cette image en plus pour me faire plaisir, parce qu'actuellement, les archives nationales de Rome se trouvent dans le bâtiment à gauche. Et pendant plusieurs années, j'y ai travaillé tous les jours. Donc, j'en fais plaisir à moi-même. Alors, image suivante. Alors, vous ne voyez peut-être pas très bien dans l'image à droite des étoiles en stuc doré qui descendent du ciel à l'intérieur de la coupole, qui est traitée comme une sorte de rose retournée, et, hypothèse récente, qui signifierait l'effusion de l'esprit le jour de la Pentecôte. Donc, ce serait une tour de la Pentecôte, et le lanternon serait une tour de l'harmonie s'opposant à la tour de Babel. Or, vous avez deviné qu'au paradis, naturellement, il n'y aura plus de confusion des langues. Et enfin, ça c'est pour faire plaisir à mon ami Ossola, c'est la plus détonnante encore, la chapelle du Saint-Suaire, élevée par Guarini à partir de 1667 à l'extrémité de la cathédrale de Turin. Et le morceau de bravoure, du point de vue technique, architectural, en est, vous le voyez là, l'empilement des hexagones décroissants disposés en quinconce et qui s'élèvent vers la base circulaire de la lanterne. Et nous savons, par son auteur Guarini, que cette géométrie éblouissante voulait diriger le regard vers le mystère de la Trinité, donc vers le ciel. Mais si les paradis de l'âge baroque furent profondément différents de ceux qui les avaient précédés, c'est assurément parce qu'ils se déployèrent sur des surfaces courbes, voûtes et coupoles, mais aussi parce qu'ils furent remplis par les mouvements vertigineux des anges et des élus. Auparavant, au contraire, les anges et les élus étaient représentés soit immobiles, soit saisis dans des déplacements de faible amplitude. Or, maintenant, grâce à la représentation du mouvement, grâce à la maîtrise croissante de la perspective, on a pu jouer de plus en plus sur les perspectives centrales, cavalières, point de fuite et point de distance. Et leur devinrent dès lors possible des trompe-l'œil stupéfiants, des raccourcis qui vous coupent le souffle. L'art, j'ai risqué la formule, mais je la maintiens, l'art baroque a provoqué un premier triomphe du virtuel qui fit une entrée en force dans les sanctuaires par la combinaison de l'espace illusionniste de la peinture et de l'espace réel de l'architecture. Par le jeu des trompe-l'œil, les cadres explosent, l'inertie des langues, des lignes est rompue, l'univers céleste peut faire irruption dans l'Église. Et donc, ce que l'art du temps se plut à exalter, ce fut moins la cour céleste réunie dans sa plénitude que le moment fulgurant de l'ascension, ascension de Jésus, de Marie, des anges et des saints vers les sommets des cieux. Et des thèmes voisins rejoignirent les précédents, je veux dire en particulier les triomphes, entre guillemets, les triomphes de l'Eucharistie, de l'Église, de la croix et des martyrs. Et tous ces thèmes justifièrent non pas la représentation du paradis en lui-même, on ne le voit presque plus, mais les mouvements giratoires et ascensionnels étourdissants que les fidèles regardaient éblouis depuis la terre. Ah, maintenant, je reviens à premier. Oui, alors, dans le domaine religieux, je pèse mes mots, hein, dans le domaine religieux et dans la peinture, on peut dire que l'art baroque est né à la cathédrale de Parme en 1535, donc, entre parenthèses, 10 ans avant la réunion du Concile de Trente, 5 ans avant la création de l'ordre des Jésuites, parce que parfois on dit art baroque, art jésuite. L'art baroque a commencé avant les Jésuites, il faut dire que les Jésuites ont magnifiquement joué de l'art baroque. Bon. Donc il s'agit de l'Assomption, peinte par le Corrège, n'est-ce pas ? Et je crois que vous et moi, le visiteur en tout cas, est trop subjugué pour s'attarder aux détails. Alors, c'est même inutile que j'essaie de vous les montrer, mais en bas à gauche, vous avez quelques anges musiciens qui ont des cymbales et des tambourins. Marie est représentée, mais il faut la deviner avec une loupe. Si vous voyez en bas un manteau bleu, une sorte de grande écharpe bleue, c'est le manteau de Marie qui est en extase, qui regarde vers en haut. Mais ce n'est pas ça qu'on voit. Et d'ailleurs, ce n'est pas ça, finalement, sur quoi Corrège voulait attirer l'attention. Ce qui nous frappe, c'est le tourbillon des anges. évidemment, la spirale vertigineuse qui inspire Marie et la milice céleste vers la trouée de lumière qui fait reculer les cercles de gros nuages. Les gros nuages, c'est l'atmosphère terrestre. On franchit la barrière des nuages et on aboutit dans la lumière éternelle. Voici maintenant quelques fresques très sophistiquées, mais se rattachant à la même esthétique. Alors, devant les yeux, devant vous, vous avez peint deux siècles plus tard un paradis, peint par Johann Jakob Zeiler sur la voûte de l'église bénédictine d'Ottobeuren en Bavière. Et c'est ici une Pentecôte qui fournit l'occasion d'ouvrir le ciel devant les yeux subjugués des fidèles. Alors, vous voyez des anges qui tournoient autour dans le ciel où plane au centre la colombe du Saint-Esprit. Et les rayons, là on le voit à peine, mais les rayons du Saint-Esprit descendent sur les apôtres qui sont réunis en bas dans un grand bâtiment qui explose par le sommet. Et dans ce grand bâtiment, vous voyez Marie en bleu et blanc et puis les apôtres autour. Voyons. Et le cercle représente les nations du monde entier que les apôtres vont aller convertir à la suite donc, de la Pentecôte. Je vous disais déjà tout à l'heure que l'Assomption a été le thème de prédilection de l'art baroque. Déjà avant, mais surtout à l'époque baroque, le thème privilégié de l'iconographie catholique sur les voûtes, sur les coupoles, sur les retables. Et l'Assomption, c'est un thème paradisiaque. Et c'était déjà le thème de l'Ascension, de l'Assomption, peinte par Le Corrège tout à l'heure. Et maintenant, c'est une Assomption réalisée en 1717-1723 par Quirin Azam, en stuc partiellement doré pour le maître-autel de l'église abbatiale de Rohr en Bavière. Et si vous voulez, qui va me servir ici d'exemple symbolique. L'architecture et la sculpture aérienne sont ici inséparables l'une de l'autre, et volontairement inséparables l'une de l'autre. En bas, les apôtres s'agitent étonnés autour du tombeau qui est désormais vide. L'un brandit une rose retirée de la tombe, un autre tient un cierge. Marie est soustraite à la pesanteur, elle est enlevée au ciel par deux anges. Le vent souffle en diagonale. Il agite les vêtements. Et tout en haut, l'image malheureusement est un petit peu coupée au sommet, mais tout en haut, des nuages, des rayons lumineux, des angelots entourent la Trinité qui s'apprête à accueillir celle qui désormais va être la reine des cieux. Enfin, dernier aspect de l'art baroque que je voudrais évoquer ici, l'église conçue, et je reprends un point que j'avais annoncé tout à l'heure, l'église conçue comme lieu paradisiaque, totalement opposée à la grisaille quotidienne, de sorte que volontairement on y accumule les couleurs, les décorations, les métaux précieux. Et en y entrant, il faut dire, pour la compréhension de l'art baroque, il faut dire que les riches et les pauvres quittaient la terre pour un espace éblouissant, un pays de rêve. Alors, trois exemples qui seront nos trois dernières images. Premièrement, alors je précise tout de suite, ma photographie est mauvaise. C'est un livre, dans un livre que je l'ai prise, mais j'ai voulu vous la montrer parce que pour vous inviter au voyage, en quelque sorte. Certains d'entre vous auront reconnu l'église de Wies, W-I-E-S, en Bavière. C'est une église du XVIIIe siècle, une église de pèlerinage, dans une clairière de forêt. Et elle a été réalisée par des architectes importants de l'époque et moi, elle me séduit, même si la photographie est mauvaise. Elle me séduit par ses lignes courbes, par la profusion du décor, par l'association des stucs, les uns dorés, les autres blancs porcelaine qui ouvrent en quelque sorte sur un ciel bleu. Je dirais que moi, j'aimerais volontiers écouter du Mozart dans cette église. Image suivante, peut-être l'avez-vous reconnue, c'est l'abbaye de Melk, en Autriche, surplombant le Danube à 80 km à l'ouest de Vienne. Je précise d'ailleurs que le Danube est en contrebas, à 80 mètres en dessous. L'église a été prise, évidemment, l'église et le monastère, reconstruits. C'est une vieille abbaye, mais reconstruite au milieu du XVIIIe siècle. Et elle est prise, évidemment, de façon à ce que la façade de l'église soit éclairée par le soleil de l'après-midi, voyez-vous. Bon. Mais ça me permet d'insister sur la couleur dorée à l'extérieur et aussi à l'intérieur. L'intérieur, je dois dire d'ailleurs que la bibliothèque du couvent est de la même esthétique. Et enfin, maintenant, dernière image, l'église du couvent bénédictin de Rio de Janeiro, qui est de l'extrême fin du XVIIIe siècle, et qui voulait provoquer un dépaysement total. Quand vous êtes à l'extérieur de l'église, que vous ne voyez que l'extérieur, gris, triste, vous dites « qu'est-ce que je viens faire ici ?» Vous poussez la porte, et voilà ce que vous découvrez. Et ça a été voulu. Ça a été voulu. Il est la totalité de l'intérieur du sanctuaire est recouverte de bois doré. Alors j'explique qu'il y a une pyramide au fond, une pyramide à 7 degrés, qui supporte une Vierge à l'enfant, encadrée par Saint Benoît et sa sœur scolastique. Et il n'y a pas une partie, il n'y a pas un centimètre carré dans l'église qui ne soit pas recouverte de bois doré. Et il me semble que par-delà les siècles, l'esthétique baroque rejoignait une constante de l'art chrétien qui, dès l'époque des mosaïques byzantines, avait fait de l'or la couleur du paradis. La couleur du paradis, ce n'est pas le bleu, c'est l'or. Alors ici, j'arrête mes images, je suis arrivé au bout de mon dossier et on peut rétablir la lumière. On peut rétablir la lumière, si vous voulez. Mais apparemment, voilà. Et là, je ne sais plus comment on éteint, mais... Non, c'est pas... Bon. Alors, si belles qu'elles aient été, j'espère vous avoir convaincu par l'échantillonnage que je vous ai donné, si belles qu'elles aient été, les évocations paradisiaques proposées par l'art chrétien d'Occident se ternirent et s'usèrent à partir de la fin du XVIIIe siècle, mais elles avaient déjà été remises en cause auparavant par le protestantisme qui se défiait des images et qui conseillait la sobriété dans la description de l'au-delà. Luther déclara un jour « De même que les enfants dans le corps de leur mère savent peu sur leur naissance, nous savons peu de la vie éternelle. » Et s'ajoutant à la préférence protestante pour la sobriété, plusieurs facteurs convergents, jouant ensemble à partir du XVIe siècle, conduisirent progressivement au repli de l'iconographie paradisiaque. La Renaissance, par exemple, mit à la mode la mythologie antique, dont le ciel païen prit les couleurs et la disposition du ciel chrétien qui, de fait, se trouva brouillé. Des peintres, dans leurs ateliers, avaient des ciels, si vous voulez, en réserve, qui pouvait servir aussi bien pour des compositions mythologiques que pour des compositions chrétiennes. La montée de l'absolutisme monarchique exalta les souverains avec les images et les symboles jusque-là réservés à Dieu. Pensez au soleil de Louis XIV. D'autre part, l'attention portée par les artistes à la vie quotidienne et à la nature conduisit, notamment dans la peinture hollandaise, du XVIIe siècle, à produire des œuvres où le ciel de la météorologie, le ciel des travaux et des jours tenait une place jadis tenue par celui de la cour céleste. Enfin et surtout, la nouvelle astronomie, c'est le titre d'un livre de Kepler en 1609, la nouvelle astronomie issue des travaux de Copernic, Kepler, Galilée et Newton détruisit en 150 ans la cosmographie aristotélicienne christianisée et anéantit la sacralisation du ciel qui était auparavant unanimement acceptée. La terre cessa d'être le centre du monde. Les sphères cristallines s'évanouirent. Le ciel apparaissait désormais, sinon comme infini, du moins comme indéfini. Il n'y avait plus ni beau, ni haut, ni bas dans l'univers. Et l'opposition classique, entre, et je dirais théologique, entre la partie sublunaire du monde, lieu du changement et de la corruption, et le domaine des étoiles, domaine de la pureté cristalline, cette distinction disparut. Il y avait aussi des taches sur le soleil et sur les planètes. Donc, il fallut renoncer à l'empirer, entre guillemets, comme espace de Dieu, des anges et des élus. Le paradis n'avait plus de lieu, il n'était plus un lieu. Il s'est agi, il faut bien voir, d'un séisme culturel qu'il faut identifier comme tel pour comprendre, je n'ai pas dit justifier, mais pour comprendre l'opposition rencontrée par Galilée, d'où la question, depuis lors, que reste-t-il du paradis ? Alors, à ce moment-là, moi, l'historien du paradis, j'étais amené à un retour en arrière. Et un regard sur la longue durée de l'histoire chrétienne révèle que deux discours apparemment contradictoires sur le paradis y ont longtemps cohabité, apparemment sans difficulté. On présentait, je crois vous en avoir convaincu, des images magnifiques de la Jérusalem céleste, du jardin éternel, mais en même temps, on affirmait que le paradis est infigurable. Jésus ne l'a jamais décrit. Et saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, déclara que la sagesse divine nous a révélé ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, cette phrase, je dois dire quelquefois, même souvent détachée de son contexte, mais répétée d'âge en âge dans l'histoire chrétienne, a toujours été comprise comme une invitation à ne pas essayer de percer par nos moyens humains les secrets du paradis. Et le catéchisme du Concile de Trente, le catéchisme de Saint Pie V, enseigna « Aujourd'hui, il est impossible que nous comprenions la grandeur de ces biens, ceux du paradis. Ils ne peuvent se manifester à notre esprit. Pour les goûter, il faut que nous soyons entrés dans la joie du Seigneur. Alors, nous serons inondés et enveloppés de toutes parts et nos désirs seront satisfaits. » Tout récemment, dans le catéchisme signé par Jean-Paul II, à propos du Notre Père, il est dit, je cite, « Qui es aux cieux, virgule, cette expression ne signifie pas un lieu, mais une manière d'être. » Donc, historiquement parlant, le christianisme a dû progressivement renoncer à une iconographie paradisiaque longtemps très belle, mais devenue de moins en moins crédible. En sens inverse, la modernité a mis sur le devant de la scène deux exigences moins évidentes autrefois qu'aujourd'hui et liées désormais à notre actuel désir du paradis ou à ce qui en reste. Dans l'histoire du paradis chrétien, ce qui fut longtemps investissement dans le descriptif s'est transformé depuis deux siècles en investissement dans l'affectif, et c'est ici que j'arrive à la conclusion de mon exposé. Compte tenu des guerres de plus en plus meurtrières sur Terre et de la disparition graduelle des liens de sociabilité qui formaient la structure des sociétés traditionnelles, beaucoup aspirent, au-delà des malheurs et des solitudes du présent, à une situation qui serait l'inverse de celle qu'a cru constater Jean-Paul Sartre lorsqu'il a écrit « L'enfer, c'est les autres ». Le paradis chrétien d'hier à aujourd'hui a toujours pensé que le paradis, ce serait les autres, dans la proximité de Dieu, dans une affection réciproque effaçant toutes les incompréhensions, toutes les hostilités d'ici-bas. La demande évangélique, aimer Dieu de tout son cœur, son prochain comme soi-même, passera de l'utopie à la réalité. D'autre part, surtout depuis la fin du XVIIIe siècle, et plus précisément depuis la nouvelle Héloïse de Rousseau, s'est affirmée beaucoup plus qu'auparavant le désir de retrouver dans l'au-delà, de façon privilégiée, ce que nous avons particulièrement aimé sur Terre. Or, il faut le dire, il s'agit d'un thème ancien du discours chrétien sur le paradis, mais qui n'avait pas concrètement revêtu autrefois toute l'importance que nous lui accordons aujourd'hui. Saint Cyprien avait écrit, là, dans l'au-delà, « Nous attendent en grand nombre ceux qui nous furent chers. Nous sommes désirés par toute une foule de parents, de frères et d'enfants. Allez les voir et les embrasser, quelle joie pour eux et pour nous. » Saint Bernard, s'adressant à son frère mort, lui disait, « En te revêtant de Dieu, tu ne t'es pas dépouillé de ta sollicitude pour nous, puisque la charité ne meurt jamais, tu ne m'oublieras jamais. » Et sainte Thérèse d'Avila fut un jour, dit-elle, transportée en esprit au ciel, et les premières personnes que je vis furent mon père et ma mère. Et donc, s'éloignant de la tentation du merveilleux, le christianisme d'aujourd'hui doit renoncer à se représenter l'au-delà. Et je reconnais que c'est une perte sévère, mais compensée par l'espoir d'une réalisation des béatitudes dans le monde à venir. Et sur ce point essentiel, la conception chrétienne de l'après-mort, historiquement parlant, n'a pas changé. C'est le point de vue auquel je me suis passé. Et donc, cette croyance tient pour certain que la prophétie de Jésus deviendra réalité. Ceux qui pleurent seront consolés. Ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Les miséricordieux obtiendront miséricorde. Le paradis sera alors la réalisation de ces rêves fous, sans la présence desquels, il faut dire que souvent, la vie tourne au cauchemar, voire à l'enfer. Merci.